Je vais vous poser une ou deux questions. Qu'est-ce que la vie chrétienne? Une question peut-être que vous vous posez. En quoi consiste la vie chrétienne? S'il fallait résumer en quelques mots ce qu'est la vie chrétienne, qu'est-ce que vous diriez? De quoi est-ce qu'elle est? Elle est composée. Qu'est-ce qui la distingue? Qu'est-ce qui distingue la vie du chrétien d'une autre vie? De la vie d'un non-chrétien? Alors, sommes-nous donc, avons-nous notre propre appréciation de ce qu'est la vie chrétienne, de ce qu'est le chrétien, de comment il doit vivre? Ou est-ce que nous pouvons trouver dans l'Écriture, avec précision, ce qu'est un chrétien, ce qu'est véritablement la vie chrétienne dans son essence? Qu'est-ce que le culte? Qu'est-ce que l'adoration? Je sais qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de gens ont comment l'adoration devrait se faire. Qu'est-ce que le culte? Qu'est-ce que le service? Comment servir? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pourquoi est-ce que j'adore comme j'adore? Pourquoi est-ce que je suis engagé comme je suis engagé? Alors, pourquoi est-ce que je vis comme je vis? C'est des questions, je crois, peut-être vous ne les posez pas, mais c'est des questions qu'il faut certainement se poser. Et puis, savoir si notre conception de la vie chrétienne est bien en phase avec la conception de l'Écriture. Parce que c'est l'Écriture qui est notre norme. Mais on trouve dans la Bible quelque part où il y a, je crois, un condensé de ce qu'est la vie chrétienne. Et c'est dans l'épître de Paul aux Romains, et au chapitre 12, et au verset 1 et 2. Romains chapitre 12, verset 1 et 2. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Romains chapitre 12, et au verset 1 et 2. Alors nous allons plutôt nous intéresser au verset 1 aujourd'hui, et puis une autre fois au verset 2. Mais écoutons la parole de Dieu. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Jusqu'ici, la lecture. Nous allons prier. Notre Dieu, nous venons à toi dans notre faiblesse et nous te prions d'illuminer nos cœurs par ton Esprit Saint, afin que nous saisissions les choses qui viennent de toi. Mais donne-nous non seulement de les saisir, mais aussi d'y obéir, d'y soumettre notre cœur, notre volonté, et que par ton esprit, tu fasses vivre ces choses en nous, pour la gloire de ton nom. Amen. Donc je crois que ces deux versets résume de manière assez condensée l'essence même de la vie chrétienne. Alors, je ne sais pas si vous auriez choisi ces deux versets pour exprimer ce qu'est la vie chrétienne, mais je crois que l'Écriture le fait. Et quand on lit Romains chapitre 12 jusqu'à Romains chapitre 16, on est dans la partie extrêmement pratique de l'Épître aux Romains. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, même à propos des autorités, beaucoup d'exhortations. Et je crois que ce qui est en tête ici, c'est vraiment la substance de tout ce qui est dit par la suite. Mais ce qui est en tête aussi, c'est la conséquence de tout ce qui a été dit auparavant. Parce que si vous regardez bien, l'apôtre Paul, l'Écriture dit ici, « Je vous exhorte donc, frère, et ce donc se rapporte bien sûr à tout ce que l'apôtre Paul a enseigné dans les 11 premiers chapitres de l'épître aux Romains. Donc c'est une lettre, on l'étudie et tout doucement, aussi le mardi soir, parfois avec le frère Vincent, et même il y a deux semaines, je crois, il a porté un message dans Romains chapitre 3. Donc voilà, c'est un enseignement théologique extrêmement profond, extrêmement vaste, que les 11 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, mais il constitue ici le socle, si vous voulez, de l'exhortation qui est donnée au verset 12. Alors, j'ai intitulé cette méditation, ce message, l'essence de la vie chrétienne. Quelle est donc l'essence de la vie chrétienne? Qu'est-ce que la vie chrétienne? Et je voudrais voir deux choses, juste à travers ce premier verset ce matin. C'est que, premièrement, la vie chrétienne est une vie qui est motivée par la miséricorde de Dieu. La vie chrétienne est une vie qui est motivée par la miséricorde de Dieu. Et puis aussi, la vie chrétienne est une vie qui est entièrement offerte à Dieu, ou entièrement consacrée à Dieu. Donc la vie chrétienne est une vie qui est motivée par la miséricorde de Dieu. Et puis la vie chrétienne est une vie qui est marquée, qui est entièrement offerte à Dieu. Une vie motivée par la miséricorde de Dieu. Regardez le verset encore. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » La conduite de la vie chrétienne repose sur des motivations. La conduite de la vie chrétienne repose sur des motivations. En exhortant les Romains à se conduire d'une manière particulière, l'apôtre Paul motive son exhortation. D'accord. L'apôtre établit donc un trait d'union entre ce qu'il vient de dire, on l'a dit dans les 11 premiers chapitres, et puis l'exhortation qu'il s'apprête à donner. « Je vous exhorte donc !» Ça veut dire, vous devez considérer ce que nous venons de dire, ce que je viens de vous exposer dans pas mal de chapitres. Et donc la conduite commandée repose sur un enseignement qui est exposé. Toujours. La conduite chrétienne n'est pas suspendue dans le vide. On ne vit pas comme on a envie de vivre. On dit pas, bon, moi, je prends la vie en tant que chrétien. Le chrétien ne dit pas, je prends la vie comme elle vient. Mais tout dans la vie du chrétien repose sur un fondement bien précis. Et cela est clair dans les épîtres écrits par l'apôtre Paul, par exemple, où il fait souvent suivre ses développements, on va dire, théologiques par des implications pratiques. Et on trouve, par exemple, en Éphésiens 4:1, où il dit, je vous exhorte donc, il y a trois chapitres d'exposition théologique, on pourrait dire, et puis encore trois chapitres où il expose, où il exhorte les Éphésiens à mettre en pratique ce qu'il vient d'enseigner. Et donc, on ne trouve pas dans l'Écriture de suite d'exhortations, de commandements qui ne soient pas motivés. On ne trouve pas de suite d'exhortations, des choses à faire qui ne soient pas motivées par une vérité biblique, étayée et établie correctement. Donc le chrétien n'est pas appelé, comme on l'a dit, à prendre la vie de n'importe quelle manière, mais il est appelé à mener une vie qui soit conséquente à quelque chose. L'apôtre Paul dit ici, je vous exhorte donc, et il relie avec ce donc-là ici, ce qu'il vient de dire à tout ce qu'il va dire derrière. Il dit beaucoup de choses, beaucoup d'exhortations. Si vous avez le temps, vous pouvez cet après-midi lire ces choses, beaucoup d'exhortations, à partir du chapitre 12, verset 3. Et il relie tout cela, il le fait reposer sur le fondement de ce qu'il vient d'enseigner 11 chapitres plus tôt. Donc la conduite chrétienne repose sur des motivations. Mais on pourrait dire aussi que ce que l'on voit ici, c'est que la miséricorde de Dieu est la motivation de toute vie chrétienne. La miséricorde de Dieu est la motivation de toute vie chrétienne. Quand un non-chrétien regarde un chrétien vivre, un vrai chrétien, on va dire, il peut dire, ouais, vous vivez comme ça parce que vos parents vous ont éduqué ainsi. Une fois quelqu'un m'a dit, déjà tu es né en Europe, et puis après tes parents tout petits t'ont plongé dans la marmite un peu, on pourrait dire ça, hein. Et puis tu as grandi là-dedans. C'est pour ça que tu es chrétien. Et donc, pour certaines personnes, la motivation, c'est simplement la famille, hein, le contexte familial. Puis d'autres disent parfois, tu es chrétien, tu vis comme tu vis, une vie chrétienne, parce que ça te permet de trouver un sens à ta vie. Bon, il y en a qui trouvent ailleurs un sens à leur vie. Bon, toi, le christianisme, ça t'aide à trouver un sens. Et c'est pour ça que tu vis la vie chrétienne, quand tu la vis. Et puis, d'autres disent peut-être, mais c'est parce que tu n'es pas suffisamment fort mentalement, et donc tu as besoin de quelque chose qui peut te booster. Et c'est vrai que la foi, après tout, pourquoi pas, ça booste un peu, ça permet de se tenir, mais il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça du tout, qui peuvent vivre sans ça. Mais notre texte ici nous montre que la motivation du service chrétien n'est pas lié au fait que on a grandi, on a toujours grandi là-dedans, et puis j'ai toujours été à l'église depuis que je suis tout petit, je continue à aller à l'église. J'ai toujours entendu parler de l'évangile, d'aller quelque part où il faut adorer Dieu, je continue à le faire. C'est pas ça que l'apôtre Paul ici dit. Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice. Donc, quelle motivation l'apôtre Paul présente-t-il ici? Ce sont les compassions de Dieu. Le mot peut être traduit aussi par miséricorde. Les miséricordes de Dieu. Et cela englobe tout l'enseignement, on a dit, qui a été révélé dans les 11 premiers chapitres. Il est en train de dire que, votre vie chrétienne doit considérer profondément les miséricordes de Dieu. Et quand on lit Romains chapitre 1 jusqu'à Romains chapitre 11, cela commence avec le péché, la colère de Dieu contre le péché, le fait que tous les hommes sont des pécheurs, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et l'apôtre Paul dit au Romains chapitre 3 que nous avons déjà prouvé que tous ont péché, juifs et grecs, et tout le monde a la bouche fermée devant Dieu, tout le monde mérite l'enfer. Et il développe et il parle de ceux que Christ sauve, et puis il dit mais que Dieu a justifié, a manifesté plutôt sa justice, Romains chapitre 3, hein. Il est demeuré juste tout en justifiant le pécheur, et Jésus-Christ est la manifestation de la justice de Dieu pour ceux qui croient. Et il est en train d'exposer comment Dieu, plein de miséricorde, a daigné venir jusqu'à des hommes pécheurs tels que nous, comment il les a sauvés en Jésus-Christ. Tout ce que Dieu donne aux croyants en la personne et en l'œuvre de Jésus-Christ. Il parle de la justification par la foi en Christ seul, il parle de la sanctification, il parle de l'élection, il parle du dessein de Dieu à l'égard de tous ceux qu'il a connus. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc tout ce que le chrétien a en la personne de Christ est présenté ici, et surtout l'apôtre évoque cette miséricorde de Dieu. Ça n'est pas à cause d'un quelconque mérite, tout cela vient à cause de la miséricorde de Dieu. Dieu qui est riche en bonté et en miséricorde. C'est cela que nous dit l'Écriture. Donc tout ce que le croyant a en vertu de l'œuvre de Christ est englobé ici dans ce que l'apôtre Paul appelle ici la miséricorde de Dieu. Et c'est peut-être le mot avec lequel il peut le mieux cerner ce qui devrait constituer le fondement même de la vie chrétienne. Toute l'exhortation ici doit être prise à la lumière des autres versets, à partir du chapitre 12, doivent être prises à la lumière des vérités qui concernent la miséricorde de Dieu à l'égard du pécheur. La grande cause, si vous voulez, des vérités sur la justification par la foi, c'est la miséricorde de Dieu. La grande cause de la vérité sur la paix que l'on peut avoir avec Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. La grande cause de l'accès, chapitre 5, que l'on a à la grâce de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. La grande cause de la réconciliation dans laquelle nous sommes plongés avec Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. Et vous pouvez prendre toutes les vérités qui sont développées. Tout cela, c'est en vertu de la miséricorde de Dieu. Le fait que Dieu se soit penché librement, gratuitement vers la misère de l'homme et daigné venir à la personne de Jésus-Christ pour sauver les pécheurs tels que vous et moi. Combien les hommes d'autrefois ont été sensibles à cette vérité, n'est-ce pas? Si vous lisez les prières de David, je vais prendre juste une, psaume 6, versets 1 à 5, on pourrait regarder cela. Psaume 6, versets 1 à 5, voilà ce qu'il dit ici, donc psaume chapitre 6, et regardez le verset 1. Il dit au chef des chantres avec instrument, la corde sur la harpe à 8 cordes, psaume de David, Éternel, ne me punis pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur. Ça, c'est ce que l'on mérite. Hein. Il dit, aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. C'est toujours à cause de la miséricorde de Dieu que l'on peut avoir quelque chose, que l'on est sauvé. Et on en a parlé dimanche dernier, on en a parlé encore mardi soir, hein, dans ce que Néhémie dit au chapitre 9, où il évoque plusieurs fois la miséricorde de Dieu. Mais écoutez, le cantique d'adoration de Zacharie, il fait référence à la miséricorde de Dieu. Écoutez le cantique de Marie, dans l'évangile de Luc, elle fait encore référence à la miséricorde de Dieu. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit, hein, lorsqu'il parle de la miséricorde de Christ. Il dit, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour tous les hommes ont été manifestés, dit ça à Tite, il nous a sauvés, dit-il, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Et le chrétien ne doit pas oublier que il doit tout à la miséricorde de Dieu. Aucune place pour un quelconque mérite. Nous n'avons aucun mérite devant Dieu. Aucun. Tout est miséricorde et grâce de Dieu envers nous. Et donc, il faut que le pécheur médite cela. Il faut qu'il médite son non-mérite, le fait qu'il ne mérite rien, et que c'est Dieu dans sa miséricorde qui lui a tout accordé. Vous étiez mort, dit l'apôtre Paul, par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le prince de ce monde, selon la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon nos convoitises. Les convoitises, pardon, de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, dire destinés à la colère de Dieu, hein, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Si nous vivons, c'est grâce à Dieu, c'est par ça. Miséricorde. Et donc, lorsque Paul exhorte les chrétiens à vivre, il le fait sur la base de la miséricorde de Dieu. Il veut que ça soit dans leur pensée, dans leur cœur. Tout ce que vous méritiez, c'est la colère de Dieu, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et il a fallu que Dieu intervienne en grâce et en miséricorde pour vous sortir de là, des ténèbres, et vous transporter dans le royaume du Fils de son amour, dans sa lumière. Il faut maintenir cela présent à l'esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul, de temps en temps, vous voyez dans les écrits, il dit, autrefois, voilà, nous étions ceci. Moi-même, j'étais. Il n'oublie pas ce qu'il était. C'est pas parce que ça lui fait plaisir de se souvenir de ce qu'il était, mais parce qu'en se souvenant de ce qu'il était, il peut se souvenir surtout de la miséricorde de Dieu, qui ne l'a pas laissé dans cet état, mais qui est venu jusqu'à lui. C'est pareil pour nous. Quand nous nous apprêtons à vivre la vie chrétienne, ce doit être avec le souvenir de ce que nous étions et ce que nous sommes maintenant grâce. C'est pour ceux qui sont à Jésus-Christ, à la miséricorde de Dieu. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc ici, ce que je voudrais souligner, c'est que la vie chrétienne est une vie qui est motivée, doit être motivée par la miséricorde de Dieu. Ces choses doivent être dans nos pensées. On ne peut pas un seul jour ne pas penser à cette miséricorde, à cette compassion, comme le disait Jérémie, qui se renouvelle chaque matin, à ces bontés qui ne sont pas épuisées. Non seulement elles se sont manifestées à la personne de Christ dans le sacrifice qui a été accompli, mais elles continuent chaque jour envers nous, envers ceux qui croient en Jésus-Christ. Et deuxièmement, je voudrais souligner que la vie chrétienne est une vie qui est marquée par le sacrifice de soi à Dieu. Je l'avais dit autrement tout à l'heure, une vie qui est entièrement offerte à Dieu. L'apôtre Paul plaide ici pour que les chrétiens de Rome s'offrent eux-mêmes complètement à Dieu. Vous voyez ce qu'il dit ? Il dit ici, on revient dans Romains chapitre 12, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, fort des compassions de Dieu, en considérant tout ce que Dieu vous a accordé en la personne de son Fils unique, Jésus-Christ. Avec tout cela, je vous exhorte. » C'est une parole forte. « Je vous presse. » Il plaide pour qu'il puisse s'offrir totalement, complètement à Dieu. Je vous exhorte à offrir vos corps. D'autres textes disent je vous exhorte à présenter, à vous présenter à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La vie chrétienne, donc, telle qu'elle doit être vécue, est une offrande à Dieu, une offrande de soi-même à Dieu. Et quand vous lisez l'Écriture, hein, dans les toutes premières pages, il est déjà question de sacrifice, n'est-ce pas, d'offrande. Un Dieu a dû faire un sacrifice d'animaux quand Adam et Ève ont en péché, puisqu'il a dû tuer un animal pour les revêtir de peau. Mais on voit qu'Abel et Caïn ont fait aussi une offrande à l'Éternel. Que l'Épître aux Hébreux nous dit que l'offrande d'Abel était encore supérieure à celle de Caïn. Caïn avait fait une offrande des fruits, des légumes, et puis Abel avait fait un sacrifice sanglant. Et le culte dans l'Ancien Testament est basé sur les sacrifices. N'est-ce pas ? Dieu a voulu venir habiter parmi son peuple, mais le péché était un obstacle à la communion entre Dieu et son peuple, il a fallu des sacrifices sanglants à cause du péché. Il a fallu des sacrifices sanglants à cause du péché pour que le peuple, à travers les animaux, puisse, Dieu l'avait institué comme cela, hein, qu'ils puissent amener un animal parfait qu'ils allaient choisir, qu'ils offraient eux-mêmes pour l'expiation de leur péché. Mais on sait que, bon, c'était des sacrifices qui étaient perpétuellement répétés, qui ramenaient, la Bible nous le dit, le souvenir des péchés, et qu'ils préfiguraient le sacrifice ultime, qui est celui de Jésus-Christ, qui est le sacrifice, l'Épître aux Hébreux nous le dit, qui a été accompli une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Le sacrifice que l'apôtre Paul exhorte les Romains à avoir ici n'est pas un sacrifice sanglant, c'est pas un sacrifice pour les péchés, Il ne peut plus y en avoir parce que Jésus-Christ est le parfait sacrifice pour les péchés. Mais on pourrait dire que c'est un sacrifice en réponse au sacrifice que Christ a accompli, aux réponses des miséricordes de Dieu pour nous. Et regardez ce sacrifice, il est qualifié de plusieurs manières. C'est un sacrifice total, on pourrait dire corporel, premièrement. Notons ici que ce qui est demandé en sacrifice n'est pas ce ne sont pas des animaux ou des végétaux, mais c'est quoi? C'est le corps. Offrir quoi? Vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et ce terme englobe certainement toute la personne humaine, mais on ne peut pas non plus écarter que Paul a en vue spécifiquement le corps physique. Le corps physique, les membres, les yeux, la bouche, les oreilles, les pieds. D'ailleurs, l'Écriture insiste beaucoup sur l'importance du corps. On ne peut pas voir tous les versets qui parlent du corps dans la Bible, mais la Bible dit que le corps est le temple du Saint-Esprit. D'accord. Lorsque l'apôtre Paul exhorte les Corinthiens, il leur dit qu'ils doivent glorifier Dieu dans leur esprit et dans leur corps qui appartiennent à Jésus-Christ, qui appartiennent à Dieu. En Romains chapitre 6, verset 19, il dit « De même que vous avez livré vos membres pour être esclaves de l'impureté et pour arriver à l'iniquité, maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. » Donc il parle ici du corps qui doit être livré à Dieu. Ici. Et donc pourquoi Paul ne dit pas simplement d'offrir le cœur, offrez vos cœurs à Dieu. Ça nous arrangerait peut-être beaucoup plus. Parfois on dit, ce qui est important c'est le cœur, n'est-ce pas? Peut-être je ne fais pas exactement ce qu'il faut, mais le cœur, Dieu voit mon cœur. Et Dieu voit qui les doit, mais sommes-nous certains que Dieu voit la même chose que nous? Quand il regarde notre cœur, peut-être nous sommes certains de quelque chose qui n'est pas du tout ici. Et donc, il n'y a pas de, nulle part dans la Bible, de dissociation entre le corps et le cœur. D'accord? On peut faire des choses avec notre corps sans que le cœur y soit vraiment. On peut chanter sans que le cœur y soit. Dieu, il le dit dans Ésaïe, il dit, ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres. Ça, c'est le corps. Mais son cœur est éloigné de moi. Alors, il est certain que lorsque le cœur est à Dieu, le corps l'est aussi. Mais, il y a un psaume, je crois, où le psalmiste dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Hein? Donc, le cœur, lorsque le cœur est au Seigneur, le corps l'est aussi. Okay. Bien sûr. Mais, lorsque on nous donne comment est-ce que moi je sais que mon cœur appartient au Seigneur? Comment est-ce que je sais que mon cœur est vraiment droit devant Dieu? Comment est-ce que je sais que mon cœur est offert au Seigneur? C'est lorsque mon corps l'est aussi. Lorsque mon corps l'est aussi. Si vous dites à votre épouse ou à un ami, je sais pas moi, on va prendre le cas d'un mari et son épouse, il agit de manière violente physiquement à l'égard de son épouse. Mais il lui dit en même temps, tu sais, moi je t'aime. Mon cœur t'aime. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. On est d'accord, hein? C'est-à-dire, il ne peut pas être d'un côté violent avec le corps et puis dire qu'il aime avec le cœur. Ça n'est pas possible. Mais s'il est attentionné à l'égard de son épouse, et que il connaît tout ce qu'elle aime, il fait attention, etc. Il manifeste vraiment des gestes, une attitude physique correcte et droite à l'égard de son épouse. Eh bien, elle peut dire, peut-être faire un lien entre l'attitude du cœur et l'expression extérieure par le corps. Le corps est ce avec quoi nous interagissons avec le monde qui nous entoure. On ne peut pas parler de cœur à cœur avec quelqu'un ou de pensée à pensée avec quelqu'un. Je peux dire à Jacob quelque chose par ma pensée. Voilà. Je lui dis, ouais, il ne bouge pas, il ne fait rien. Je lui ai dit, lis-moi Romains chapitre 12. Il n'a pas fait, pourquoi? Parce que je ne l'ai pas exprimé avec ma bouche. Donc le corps est ce que Dieu nous a donné pour exprimer les choses aux autres. Et si je le dis, lis Romains chapitre 12, il le fera. Ça va, il va le recevoir par son corps, ça va monter à son esprit, et puis, certainement son cœur bien disposé va le faire. D'accord? Donc c'est par le corps que nous communiquons les uns avec les autres. Et donc c'est par le corps que l'on mesure vraiment ce qu'il y a dans notre cœur, véritablement. Et donc, l'apôtre Paul dit ici que la vie chrétienne consiste à offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Nous sommes prêts à offrir beaucoup de choses à Dieu. Nous sommes prêts à offrir de l'argent. Nous sommes prêts à offrir du temps. Nous sommes prêts à offrir notre maison. Nous sommes prêts à offrir nos services à Dieu. Mais ce que Dieu veut, il ne veut pas de service dissocié de la personne. Ce que Dieu veut, ce sont les personnes. Et pour que la personne soit à Dieu, il faut que le corps lui soit entièrement sacrifié. Et donc, Paul dit ici que le sacrifice qui est attendu par Dieu, c'est un sacrifice corporel. Oui, Dieu dit « donne-moi ton cœur », mais il dit « donne-moi aussi le corps avec ». Il veut tout, les mains, les pieds, tout ce qui constitue notre corps, nos pensées. Offrir son corps, c'est livrer à Dieu nos membres pour qu'il en fasse ce qu'il veut. C'est-à-dire que lorsque le corps est au Seigneur, il n'est pas à un endroit le dimanche matin et puis à un endroit complètement contraire le dimanche après-midi. C'est ce que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens. Il disait, vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et en même temps à la table des démons. Et ça ne se faisait pas le même jour, probablement pas. Peut-être le dimanche, je pourrais dire, on prend un exemple, le dimanche ils étaient à la table du Seigneur et puis le lundi ils étaient à la table des démons. Mais pour l'apôtre, il y a une continuité dans la vie. On ne peut pas avoir le dimanche matin quelque chose qui, voilà, on dit on est dans un culte et puis non. Et le culte, c'est le culte du corps. Et donc ça veut dire, où que soit le corps, en quelque lieu qu'il soit, et à quelque heure que l'on soit dans la journée, il appartient au Seigneur. Il est sacrifié à Dieu. Donc si c'est le corps qui est sacrifié, ça veut dire que tous les espaces-temps sont consacrés aussi à Dieu. Ça veut dire que le culte n'est pas quelque chose qui est cloisonné le dimanche matin entre 10h30 et midi, ou midi 30 selon le prédicateur. Mais tous les jours et en tout lieu, que je sois à la maison, au travail ou ailleurs. Dieu ne demande pas tant de nous, en tout cas, d'offrir des sacrifices, mais il nous demande d'être un sacrifice. Il ne nous demande pas tant d'offrir des choses, mais d'être nous-mêmes l'offrande que nous faisons à Dieu. C'est un sacrifice corporel, c'est un sacrifice aussi vivant. Vous avez noté cela? Et cela montre certainement la permanence du sacrifice. Avant, l'animal qu'on offrait devait être tué initialement. Et puis, on l'offrait. Donc, le sacrifice était un sacrifice, on l'a dit tout à l'heure, qui est un sacrifice vivant et probablement sanglant. Probablement, l'apôtre Paul, voilà, il y a ça en contraste dans l'esprit, les sacrifices de l'ancienne alliance qui étaient des sacrifices sanglant que l'on amenait, qui était destiné ici à la mort. Ici, le sacrifice exigé est un sacrifice vivant. Le chrétien est sacrifié pour vivre, pas pour mourir. Alors, il est sacrifié pour mourir à sa propre vie, à sa vie naturelle, mais pour vivre à quoi ? Pas pour vivre sa propre vie, pour vivre la vie de Christ. C'est ainsi que le corps était un sacrifice vivant. C'est exactement ce que l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 2 verset 20 quand il dit « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est qui ? C'est Christ qui vit en moi. Alors, la vie que l'apôtre Paul vit, c'est sa vie à lui. Quand il se couche, c'est l'apôtre Paul qui se couche. Quand il se lève, c'est l'apôtre Paul qui se lève. Quand il est en voyage, c'est l'apôtre Paul qui est en voyage. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas Timothée, c'est pas Silas. Tout ce que Paul fait concerne Paul et concerne sa propre vie. Mais c'est une vie qui est soumise à la vie de Christ. Et c'est Christ qui vit à travers la vie de l'apôtre Paul. Et donc une vie offerte à Dieu est une vie qui doit manifester la vie de Christ. On peut prendre l'exemple d'un parent qui suit son enfant, par exemple. On pense, parfois il y a des parents, ils sont après leur enfant et ils ne vivent que pour leurs enfants. Ils sont à tous les concerts de musique, tous les cours de musique, partout, à les conduire à droite, à gauche, etc. C'est-à-dire, on a l'impression de regarder vivre le parent, c'est voir vivre l'enfant. Parce que toute la vie du parent est concentrée sur les activités de son enfant. Il ne parle que de son enfant, il n'est qu'avec son enfant, il est toujours là. Eh bien, je pourrais dire que c'est un petit peu ça que l'apôtre Paul dit ici. Il dit, c'est bien le parent qui vit, c'est bien le parent qui se déplace, c'est bien le parent qui prend la voiture, qui démarre, c'est le parent, c'est la vie du parent. Mais cette vie est devenue, étroitement liée à la vie de l'enfant. Et donc, regarder vivre le parent, c'est quasiment regarder vivre l'enfant. Et ce que Paul dit, c'est la même chose ici. Regarder vivre le chrétien doit être regarder vivre Christ. C'est Christ qui doit vivre à travers le chrétien. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 7 à 11, il dit que nous portons toujours en nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. La vie de Jésus doit être manifestée dans notre corps. Et donc c'est pour cela que nous portons, il dit, la mort de Christ en nous, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. L'apôtre Paul, voilà, partout où il allait, il y avait des risques qu'il meure à cause de l'évangile, à cause de Christ. Mais il dit, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Christ, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Alors, le sacrifice consiste, oui, à mourir à soi-même, à ses propres désirs, à ses ambitions, mais pour laisser Christ vivre. Et en ce sens, c'est un sacrifice vivant. Et tout chrétien est appelé à manifester la vie de Christ en sa vie. Une vie dans laquelle la parole de Dieu est vécue, c'est ça qui est demandé ici. Et cela suppose, voilà, bien sûr, que nous soyons morts à nous-mêmes. Et c'est en cela que c'est un sacrifice. Nul, Romains 5, versets 14 et 15, on va pas le lire, prendre le temps de le faire, mais vous pouvez le noter et voir que l'apôtre Paul parle encore de cette vie de Christ qui doit briller en nous. Donc un sacrifice corporel, un sacrifice vivant, un sacrifice saint aussi. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. C'est-à-dire mis à part, séparé de ce qui est vil et profane. C'est ça que ça veut dire. Et donc on retrouve cette idée dans Romains chapitre 6, verset 13, c'est exactement la même chose. L'apôtre Paul dit, ne livrez pas vos membres, il parle ici du corps, n'est-ce pas, au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, c'est-à-dire votre corps, comme des instruments de justice. Donc on voit là la destination qui est incluse dans cette offrande du corps. C'est-à-dire le corps est offert comme des instruments pour exprimer les choses justes et droites. Le corps est offert pour accomplir les œuvres de justice. Le corps qui est offert à Dieu est destiné à un usage spécifique. Il est pour la sainteté. Il ne peut pas être exposé à n'importe quel endroit. Il est réservé pour un usage particulièrement pur et saint. C'est ce que ça veut dire. Et donc, le croyant ne peut pas balader son corps n'importe où, à ses yeux qui regardent n'importe quoi, ses oreilles qui écoutent n'importe quoi, ses mains qui touchent, etc., n'importe quoi, ses pieds qui se baladent à n'importe quel endroit. Non! ses pensées qui vagabondent dans n'importe quoi. Absolument pas. Parce qu'il est un saint. C'est-à-dire, il est un vase qui est mis pour un usage non profane, pour un usage saint. C'est exactement ce que Paul dit quand il parle à Timothée. Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a de bois et aussi de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vil, profane. Il dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il parle de quoi ici? Il parle de tout ce que, les divisions qu'il y avait dans les églises, les disputes de mots, c'est ça le contexte ici. Et il dit, si quelqu'un se préserve de toutes ces choses, eh bien, il sera un vase d'honneur, sanctifié, on trouve notre mot saint, c'est-à-dire mis à part, et utile à son maître. Donc, si on n'est pas sanctifié, on n'est pas utile. Si on n'est pas mis à part et strictement réservé, on n'est pas utile. On ne peut pas avoir deux usages. C'est ou l'usage est vil, ou l'usage, il est un usage d'honneur. Et le chrétien, la personne que Christ rachète, est pour un usage d'honneur. C'est pour ça que Paul dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, c'est-à-dire à usage exclusif pour la gloire de Dieu. Donc, comment être un sacrifice saint? En se conservant pur, ce texte ici, par l'abstinence des choses qui souillent. Sinon, on n'aura aucune utilité. Il dit aussi que c'est un sacrifice agréable à Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et d'autres textes, vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, disaient que les sacrifices devaient être des sacrifices d'une odeur agréable à l'Éternel. On n'adore pas Dieu comme bon nous semble. Hein. Moi, je pense que l'adoration doit se faire comme ça. Lui, il pense autrement. Bon, ça c'est. Mais chacun on a notre type d'adoration. Voilà comment on adore. Oui. Pas dans l'Écriture. Voilà comment j'offre à Dieu. C'est comme ça que j'ai... Non. Voilà comment j'offre ma vie à Dieu. Non. Tu dois l'offrir tel que Dieu le commande dans l'Écriture. Il doit être offert de manière à être agréable à Dieu. Tous les sacrifices ne sont pas des sacrifices agréables. Celui qui est agréable, c'est celui qui est sacrifice de toute la personne, qui est vivant, qui est saint. Ça, c'est agréable à Dieu. Usage exclusivement réservé pour Dieu. Ça, c'est agréable à Dieu. Regardez quelques textes ici, rapidement, dans Hébreux chapitre 12, verset 28, où il est question de sacrifice agréable à Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 28. Nous lisons, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance. Vous voyez ici, on a dit, c'est un sacrifice ici que de reconnaissance. Et montrons notre reconnaissance à Dieu en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable et avec piété. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et qu'on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment, il faut l'adorer comme il doit être adoré. L'apôtre Paul avait souligné la même chose quand il parlait aux Corinthiens. Il dit, voulez-vous affronter la jalousie de Dieu? Dieu est un feu dévorant. Vous ne pouvez pas être à la table des démons et à la table du Seigneur. Ce n'est pas possible. Il faut adorer Dieu d'une manière qui lui soit agréable, qui lui plaise à lui. Ce n'est pas moi et ma chair qui doivent trouver du plaisir en premier dans l'adoration. Il y en a qui disent, mais moi, je sens mieux quand il y a une batterie dans l'église pour pouvoir... jouer. J'ai rien contre la batterie. D'accord? Mais ils sont en train de dire, voilà. Donc ils disent, voilà. C'est-à-dire, on est en train de dire, je cherche ce que moi j'aime en premier. Non. C'est ce qui plaît à Dieu que l'on doit chercher en premier. C'est lui qui reçoit le culte. C'est lui qui en donne tous les contours, le contenu, la direction. Et on doit le faire comme il le commande, afin qu'il puisse y trouver du plaisir. Hébreux chapitre, vous êtes déjà dans Hébreux, chapitre 13, verset 15. Il dit, par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres. Les lèvres, ça fait partie de quoi? Du corps, hein, n'est-ce pas? Donc c'est le corps et l'expression et les paroles que nous allons prononcer, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, le partage et le bien, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Pourquoi est-ce qu'il dit d'offrir cela comme ça? Il dit parce que cela fait plaisir à Dieu. Le plaisir de Dieu doit être présent aussi à notre esprit. Philippiens chapitre 4, verset 18, dernier, Philippiens chapitre 4, verset 18. Philippiens chapitre 4 et au verset 18. L'apôtre Paul parle aux Philippiens du don qu'il a reçu, et il dit, j'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance. Donc les Philippiens lui ont fait un don, il est en prison à Rome, quand il écrit cela, il dit, et j'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, hein, et qui lui est agréable. Et ici, le fait qu'ils aient fait un don, ici, financier, l'apôtre Paul dit, et qu'ils aient fait tout cela pour lui faire parvenir, ça c'est un sacrifice qui est agréable à Dieu. Non, il ne parle pas simplement du fait de l'argent ici. Je crois qu'il parle de toute la disposition et de ce que ce don représente. Si vous lisez, lorsque l'apôtre Paul parle dans 2 Corinthiens chapitre 8, des Macédoniens, donc des Philippiens, quand ils avaient fait le don pour les besoins de l'église de Jérusalem, écoutez ce qu'il dit dans 2 Corinthiens et au chapitre 8, verset 5. 2 Corinthiens 8, verset 5. Il dit ceci. Alors, 2 Corinthiens chapitre 8 et au verset 5. Il dit, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, il parle de leur contribution à la collecte, mais ils se sont d'abord fait quoi? Donner eux-mêmes au Seigneur. Il parle des Macédoniens, c'est-à-dire des Philippiens, Bériens, Thessaloniciens. Je pense particulièrement des Philippiens ici. Il dit, leur don financier était la conséquence du fait qu'ils se soient offerts eux-mêmes à Dieu. Et c'est en cela que c'est un sacrifice agréable à Dieu. Parce que il est associé ici au don du corps, au don de la personne tout entière à Dieu. Et puis ensuite, l'apôtre Paul dit que c'est un sacrifice aussi raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La réaction du monde lorsque le chrétien vit d'une manière véritable pour Christ, c'est que c'est déraisonnable. C'est du gâchis. C'est extrémiste. On peut pas. Dieu n'a jamais demandé cela. C'est fanatique de vivre comme cela. Mais l'apôtre Paul dit ici, se donner de cette manière à Dieu, de manière aussi entière et exclusive, il dit ça c'est raisonnable. Le mot pour raisonnable ici c'est logique. C'est logique. C'est-à-dire, en regard des compassions de Dieu, il n'y a pas autre chose que le chrétien puisse faire. Et l'apôtre Paul, c'est ainsi qu'il a agi, rappelez-vous, quand il parle aux Galates. Il dit, lorsque la bonté de Dieu a été révélée et qu'elle s'est manifestée, je ne consultais ni la chair, ni le sang. C'est-à-dire, je ne me suis pas arrêté aux considérations que les hommes pourraient avoir. Mais il s'est complètement donné à Dieu. Dans Galates chapitre 5, chapitre 1 et au verset 15 et 16. Donc c'est un sacrifice. Un tel sacrifice est le seul sacrifice que l'on puisse faire, la seule réponse raisonnable que l'on puisse apporter à Dieu. Peu importe ce que le monde dit, peu importe s'il y a des Judas autour de nous pour dire que le parfum de grand prix qu'on est en train de verser sur les pieds de Jésus, c'est du gâchis. On aurait pu le vendre pauvre, disait Judas. Sa réaction a été une réaction de dire « c'est trop ». C'est trop. Mais lorsque le chrétien pense à la miséricorde de Dieu, il n'y a pas de c'est trop. Il doit s'offrir complètement. L'apôtre Paul ne laisse pas d'alternative ici. Il ne dit pas, vous devriez le faire, au moins essayer. Non, il dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera un culte raisonnable. C'est-à-dire, c'est inévitable. Si vous êtes un enfant de Dieu, c'est inévitable. Vous ne pouvez pas être, vous dispenser d'offrir volontairement votre corps à Dieu. Sinon, ça veut dire que les compassions de Dieu ne sont pas en train de vous mouvoir. Vous n'êtes pas dans l'admiration dans ce que Dieu a fait. Et si vous ne l'êtes pas, ça veut dire que peut-être que dans le cœur, il n'y a rien. Parce que lorsque Dieu met son esprit dans nos cœurs, c'est pour ouvrir nos yeux sur les grâces qu'il nous accorde. Que nous soyons rendus capables de l'adorer, de reconnaître ce que nous étions, ce que nous sommes. Et la conséquence inévitable de cela doit être que nous offrions notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Je termine, chers frères et sœurs, avec quelques mots de conclusion. Croire à l'Évangile, c'est être transformé par l'Évangile. Ce que Paul dit ici, il a 11 chapitres ici de connaissance théologique qu'il apporte. Mais il dit, quelle est la finalité de tout ça? Eh bien donc, c'est que vous vous offriez entièrement à Dieu. Que vous abandonniez votre vie. Que vous renonciez à vous-même. Que vous portiez votre croix. Que vous suiviez Christ. Croire en l'Évangile, c'est être transformé par l'Évangile. Une vérité qui ne nous transforme pas n'est pas une vérité qui est véritablement crue. Si nous disons nous croyons en l'Évangile, nous devons être transformés par l'Évangile. Deuxièmement, on devrait faire remarquer que la transformation des connaissances bibliques en une vie conséquente, c'est-à-dire le passage de la doctrine à la pratique, n'est pas quelque chose qui est automatique. Sinon, l'apôtre Paul n'aurait pas d'exhortation dans l'Écriture. On aurait fait justement que d'exposer des vérités. L'apôtre Paul se serait arrêté au Romains chapitre 11, verset 33, je crois, c'est ça, je ne sais plus. Il serait arrêté à ce passage-là. S'il dit « je vous exhorte donc », c'est qu'on a besoin d'être exhorté. Parce que la vie pratique n'est pas automatique, il suffit pas d'écouter l'enseignement de la parole de Dieu pour dire ça va aller très bien. Non, on le sait bien, on a besoin d'être enseigné sur les vérités, mais d'être exhorté, profondément, rigoureusement exhorté à la vie pratique. Ça n'est pas naturel, la vie pratique chrétienne n'est pas une vie naturelle. En parlant à Tite, l'apôtre Paul dit ceci dans Tite chapitre 2 verset 1, il dit à Tite qu'il doit dire ce qui est conforme à la saine doctrine. Dit ce qui est conforme à la saine doctrine. À d'autres endroits, il dit, enseigne la saine doctrine. Mais à un autre, il dit ce qui est conforme à la saine doctrine. Et il ajoute, dit au vieillard que. Dit à la femme âgée que. Dit aux jeunes gens que. Voilà comment ils doivent se conduire. Et ça, c'est conforme à la saine doctrine. Ils ont besoin d'être enseignés dans la saine doctrine. Doctrine, parce que ça n'est pas automatique de vivre d'une manière pratique et fidèle à la gloire de Dieu, rien qu'en entendant l'enseignement de la vérité. Il est indispensable l'enseignement de la vérité. Mais nous avons besoin d'être les uns les autres exhortés. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, exhortez-vous les uns les autres, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. On a besoin de dire, mon frère, ma sœur, vois-tu, il faut que tu te repentes. On a besoin de cela. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chrétien doit être enseignable et malléable. Il ne peut pas dire, oh, moi, je veux juste la vérité et laissez-moi choisir comment je dois vivre. Non, il doit aussi accepter d'être enseigné sur la conduite qu'il doit avoir. Je dois accepter d'être enseigné sur la conduite que je dois avoir. Parce que ça n'est pas quelque chose qui est automatique. Et puis, troisièmement, Je dirais que l'adoration chrétienne ne se confine pas en un lieu et en une heure précise. Dimanche matin, 10h, midi 25. D'accord ? Le fait d'offrir son corps, on l'a dit tout à l'heure, montre que ce sacrifice est un que le culte qui est raisonnable ici est un culte permanent. Dans quelque lieu que se trouve le croyant, eh bien, il doit adorer Dieu. Quand il est dans sa cuisine, il adore Dieu. Quand il est en train de faire la mécanique dans son automobile, il est un chrétien qui est consacré à Dieu. Il n'y a absolument pas d'espace ni de temps dans lequel il est dispensé d'être consacré à Dieu. Parce qu'il est un sacrifice vivant. Jésus-Christ est le sacrificateur qui est vivant. Il ne cesse de l'être. Il n'y a pas un instant où vous pouvez vous approcher et où vous entendrez, non, ça y est, j'ai déposé le sacerdoce, reviens demain à telle heure. Quel que soit le moment de la journée, nous pouvons nous approcher, l'Épître aux Hébreux nous dit, du trône de la grâce et nous pourrons trouver grâce. Parce que le souverain sacrificateur est établi pour toujours et il sauve, continue à sauver parfaitement. De même, l'enfant de Dieu, d'accord, qui est un peuple de sacrificateurs, n'est-ce pas, doit continuellement, il est un sacrifice vivant qui est continuellement offert à Dieu, dans tous les caractères que nous avons développés ici. Que doit être donc notre prière? Bien, d'abord reconnaître que peut-être nous ne vivons pas la vie chrétienne telle que l'Écriture nous le commande, mais telle que nous avons forgée en notre esprit. Et nous pouvons demander à Dieu pardon, reconnaître cela, nous repentir et demander au Seigneur la grâce de pouvoir vivre tel que sa parole nous l'enseigne. Nous pouvons peut-être prier comme ce cantique le suggère. Il dit « Prends ma vie, elle doit être à toi, seul au divin maître, que sur le flot de mes jours, ton regard brille toujours, que mes mains à ton service s'offrent pour le sacrifice, qu'à te suivre pas à pas, mes pieds ne faiblissent pas. Prends ma voix et qu'elle chante ta grâce auguste et touchante. Par mes lèvres, que ton nom parle aux pécheurs de pardon. Que mon esprit s'illumine de ta sagesse divine. Prends mon argent et mon or et toi seul sois mon trésor. » Pouvons prier cela à Dieu. Cette parole de Paul pour l'Épître pour les chrétiens de Rome est pour nous aussi ce matin. Et nous devons entendre le Seigneur par son esprit qui nous dit « Je vous exhorte donc. » Vous pouvez mettre votre nom. Après, je vous exhorte. Je t'exhorte donc, Albert, à offrir ton corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de ta part un culte raisonnable. Je voudrais juste ajouter qu'il est impossible de faire cela à moins d'être mis au bénéfice des compassions, de la miséricorde de Dieu. L'apôtre Paul s'adresse ici aux frères. Je vous exhorte donc, frères, c'est des gens donc qui connaissent Christ. Et la première étape consiste à venir à Christ, comme on l'a dit ce matin. On a dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. C'est une promesse de l'Écriture. Si vous ne connaissez pas Christ, eh bien, venez à lui aujourd'hui. Quiconque invoque son nom, dit-il, sera sauvé. Mais il dit aussi que celui qui invoque le nom de l'Éternel, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et nous sommes aussi appelés en tant que chrétiens à nous éloigner du mal et à offrir vraiment, véritablement notre corps tout entier, notre être tout entier, esprit, âme et corps au Seigneur Jésus-Christ. En considérant la grandeur de ses compassions et de sa miséricorde. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton exhortation, l'exposition des vérités que nous avons dans ta parole. Et nous te prions afin que tu nous aides à être sensibles à tout cela. Nous devons reconnaître que bien souvent, nous voulons utiliser notre vie comme bon nous semble. Nous avons parfois du mal à nous exposer même à l'enseignement de ta parole. Mais nous voyons à travers ce que nous avons lu combien il est important de connaître ce que tu as, notre Dieu, donné à la personne de Jésus-Christ, de connaître ta miséricorde. Et combien il est aussi important de vivre une vie qui t'honore, d'offrir complètement notre être, de l'offrir à toi. Seigneur, nous te prions d'agir et de produire ces choses par ton esprit en nous. Nous n'avons pas de puissance naturelle en nous-mêmes, mais nous savons que ce que tu nous commandes de faire, mais par ton esprit, tu le produis en nous, parce que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Et nous nous remettons à toi. Incline nos cœurs dans l'obéissance à la gloire de ton nom. Amen.